Bon lundi, Jérémy.
Salut, la gang.
Est-ce qu'ils vont rebondir?
Ben écoute, jusqu'à maintenant, cette année, ils n'ont jamais failli à la tâche. À chaque fois qu'ils ont perdu, ils ont rebondi dans le match suivant. Là, c'est deux matchs en deux soirs pour la première fois de la saison. Sauf que, bon, disons qu'il n'y a pas une longue distance à voyager. En fait, je ne sais même pas pourquoi ils font pas ça plus souvent. C'est deux matchs en deux soirs, les deux dans la région de New York. Donc, c'est pas comme si les gars ont à voyager très, très, très loin. C'est pas très demandant à ce niveau-là. Donc, les Islanders ce soir, puis les Rangers demain. C'est Antiniemi hein, ce soir, les gars. Carey Price demain. Mais je sais pas si les gens ont réalisé... Mais les Islanders, ça va pas si pire que
non,
ça. Hein?
Écoute, je pense qu'ils ont peut-être un petit point devant le Canadien. Je pense que c'est 17 contre 16.
Ben en fait, là, ils sont premiers de la division métropolitaine. Et si les séries devaient commencer aujourd'hui, Canadiens commenceraient les séries chez eux, à Long Island.
Okay.
C'est assez particulier quand même, surtout après la perte de John Tavares, je sais qu'il est encore
J'aime
très
ça,
tôt dans la saison.
C'est
là.
De la musique à mes oreilles. Si les séries devaient commencer...
Oui. Toi, t'aimes ça parce que t'aimes ça de projeter dans l'avenir.
Ben là, écoute, non, mais on peut-tu vivre d'espoir? Arrête de tuer cette étincelle, d'éteindre l'étincelle
non,
qu'il y a en moi.
Non, je ne l'éteins pas. Mais il est de bonheur.
Je sais qu'il est de bonheur.
Mais la réalité, c'est ça. C'est que si les séries devaient commencer aujourd'hui... Les Canadiens commenceraient les séries là-bas, à New York, contre les Islanders. Et les Canadiens, en fait, transféreraient là, dans la division métropolitaine pour les séries. Ben écoute, ça ferait quand même une série intéressante. Mais ouais. Tu sais, qui aurait pu penser ça? Là, je sais que les Sénateurs ont un peu piqué du nez là, dans les dernières semaines. Ne sont plus dans le portrait des séries au moment où on se parle. Mais tu sais, si t'avais regardé ça la semaine passée, t'aurais dit « Tabarouette, Canadien perd... » Galchenyuk et Pacioretty sont meilleurs. À Ottawa, ils ont perdu Carlson, sont meilleurs. Mm. Puis à New York, ils ont perdu Tavares, sont meilleurs. Coudon, faut-tu se débarrasser des gros salariés pour que les équipes commencent à performer? Je sais pas. Bon, en tout cas, je dis ça même.
Peut-être parce qu'il y en a aussi qui jouent davantage avec le départ de ces joueurs-là.
Peut-être.
Puis ils en mettent peut-être encore un peu plus, justement, pour s'assurer d'une place. Par contre, il ne faut jamais oublier que sur du long terme, ça peut changer assez rapidement.
Ah ben oui.
On le voit avec les Sénateurs, là, ça ne veut pas dire qu'ils rebondiront pas.
Non.
Mais effectivement, sur du long terme, des fois, ça peut la situation peut revirer de bord.
Ben écoute, c'est encore l'histoire des Golden Knights la saison dernière.
Oui.
Pas vraiment de joueurs étoiles, mais tout le monde joue un montant raisonnable de minutes, puis ça porte ses fruits. Maintenant, écoute, samedi, que voulez-vous? Je trouve que les gens sont vraiment durs avec Nicolas Deslauriers. Je suis content que l'entraîneur aujourd'hui n'ait pas décidé de le rayer de la formation à cause de la fameuse punition, parce que pour moi, honnêtement, là, 9 fois sur 10, cette punition-là, on ne l'appelle pas.
C'est
on s'entend-tu là-dessus? T'sais, il était peut-être un peu en retard sur sa mise en échec, mais bon, c'est pas un geste salaud ou disgracieux. C'est tout simplement une mise en échec qui arrive peut-être un peu tardivement. Mais t'sais, Nicolas Deslauriers, des jeux de même, il va en faire une centaine dans l'année. Là. Donc, il n'y aura pas de punition à chaque fois. Donc, j'aurais trouvé ça assez tough là, si Claude Julien avait décidé de faire de lui le bouc émissaire de cette défaite-là. Là.
C'est une question qui n'a pas rapport, là, mais est-ce que à partir du moment où on a bon espoir que cette équipe-là va aller bien encore quelques matchs, est-ce qu'au deuxième étage, l'administration du Canadien de Montréal est en train de travailler le grand coup, là, tu sais, pour être capable d'avoir une équipe très, très compétitive rendue quelque part là, à la mi-saison?
Ben, écoute, je pense que tant et aussi longtemps que le Canadien va demeurer dans cette position-là, c'est sûr qu'on va regarder ces options-là. Puis en plus, le Canadien a quand même une belle marge de manœuvre au niveau du plafond salarial, donc c'est pas comme s'ils ont les mains attachées. Si jamais ils sont toujours compétitifs à la date limite des transactions, ben le Canadien aura quand même un certain beau jeu parce que c'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre d'aller chercher un joueur, un haut salarié et l'amener dans leur équipe. Peut-être même pour plus d'une saison, là, on verra, parce que je pense pas que le Canadien mettrait une croix sur la possibilité de mettre la main sur un joueur qui est déjà sous contrat, parce que ce qui arrive, c'est que c'est tellement compliqué de convaincre les bons joueurs de signer ici comme joueurs autonomes que si tu es capable de les avoir via une transaction, c'est sûr que tu feras pas une croix là-dessus.
Quand ton équipe a une belle réputation, quand tu vois que tu es un joueur, puis tu vois aller le Canadien de ce temps-là, puis l'énergie qu'il y a dans cette équipe-là, puis l'espèce d'esprit extraordinaire.
Puis il y en a qui ont des chums dans d'autres équipes.
Absolument,
aussi,
puis ça doit se dire, ça doit se parler. C'est quoi la marge qu'on a là de libre actuellement sur la masse salariale?
Je vérifie, je sais plus par cœur.
Ça doit être
une dizaine de millions facilement.
Une dizaine de millions. Fait que t'imagines que tu pourrais frapper le grand coup et amener la perle rare qui va vraiment amener cette équipe-là le plus loin possible dans saison.
Je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est que quand on pense, par exemple, donc le cap space, là, j'ai ça devant moi, 8,5 millions. Bon. Alors, c'est 8 millions et demi, il y a quand même suffisamment de place pour travailler. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais, tu sais, peut-être que il y a certains joueurs qui... tu sais, je vais prendre l'exemple de John Tavares, OK? Si le Canadien avait connu le type de saison qu'ils connaissent jusqu'à maintenant cette année pour une année au complet, puis que Tavares est agent libre l'année prochaine, est-ce que ça se peut que Tavares, quand Bergevin appelle, au lieu de dire « Regarde, j'ai pas d'intérêt, appelle-moi même pas, je viendrai même pas visiter », comme ça a été le cas l'année passée, peut-être qu'il en aurait eu un intérêt. Peut-être qu'il aurait appelé Max Domi, peut-être qu'il aurait appelé une couple de gars, puis Gallagher, puis il aurait dit « Hey, les gars, puis comment ça se passe à Montréal? Hey, c'est le fun, on a du fun, tout le monde travaille fort. » Alors que l'année passée, souvenez-vous, il a complètement levé le nez sur l'organisation du Canadien tellement ça ne l'intéressait pas, parce que c'était juste du négatif, puis le club s'en allait nulle part. Mais vous avez raison de le mentionner que ça change la donne. Peut-être même qu'un joueur à la date limite qui a une clause de non-échange puis qui n'a pas Montréal dans sa liste, tout d'un coup, il dit « Ben, sais-tu quoi? Moi, y aller à Montréal. Pas de trouble. Fais-la la transaction. J'accepte. » Tu sais? Donc, ça change toute la dynamique pour un directeur général comme Marc Bergevin.
On parlait de football un peu. La Coupe Grey à Montréal en 2020?
Oui. Ben, écoutez, je sais que chez les Alouettes de Montréal, là, ça a été rapporté par justement le Journal de Montréal qu'ils sont à Toronto cette semaine. Puis c'est pour ça que le bilan de fin de saison là, va tarder là, vers la fin de la semaine. Mais qu'on est justement, M. Boivin, Patrick Boivin, le président de l'équipe, est à Toronto pour essayer de convaincre les autorités de la Ligue d'amener la Coupe Grey à Montréal en 2020. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la Coupe Grey. Ça date de 2004. Ça fait très longtemps dans une ligue où il n'y a que 9 équipes. Normalement, tu devrais l'avoir aux 9 ans. Mais là, ça fait quasiment le double. Mais la problématique qu'on a, puis la raison pourquoi je pense pas qu'on va l'avoir...
C'est pas au stade olympique, nous, j'imagine.
Ben, c'est ça le problème. Puis la toile, on la remplace seulement en 2022. Donc, en 2020, jouer une Coupe Grey au mois de novembre, ça serait pratiquement impossible. Parce que l'impact et les expos... ont dû, à un certain moment donné, reporter des matchs parce qu'il y avait trop de neige sur le toit. Puis si ça devait... Imaginez-vous, on est obligé de reporter la Coupe Grey.
On aurait l'air fou. Puis ça prend pas grand-chose. Hein. C'est quelques centimètres, je pense, sur la toile.
Ben, exactement. Donc, puis c'est pas impossible au Québec, à la fin du mois de novembre, on a une tempête de neige. Je veux dire, c'est très réaliste. Maintenant, il y a cette petite possibilité. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de négociations entre ESPN aux États-Unis et la Ligue canadienne de football. ESPN qui, maintenant, montre beaucoup de matchs de la Ligue canadienne de football. C'est pas rare que je vais aux États-Unis, je voyage pour le travail, puis que dans ma chambre d'hôtel, j'ai le match des Alouettes. Parce que tellement ils présentent de matchs de la Ligue canadienne. Donc, eux ont un intérêt, et ils l'ont signifié à la Ligue, pour que la saison de la Ligue canadienne commence pile au début du mois de juin. Ça veut dire que la Coupe Grey, ben, elle se gagnerait à peu près dans les alentours de l'Halloween. Si c'est le cas... Puis si la Ligue canadienne sait déjà que d'ici 2 ans, ben la saison va commencer au début du mois de juin parce que ESPN le demande. Eux autres, ils en veulent du football. Puis au début du mois de juin, ils sont prêts à diffuser des matchs de la Ligue canadienne de football. Ben là, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est quand même assez safe là, à la période de l'Halloween. Mais je pense que c'est la seule chance. Ouais. Sinon, il va falloir attendre au minimum jusqu'en 2020.
Puis la Coupe Grey, enfin, pourrait être disputée dans des conditions pas mal supérieures que ce à quoi on assiste parfois là, quand c'est dans l'Ouest canadien, par exemple.
Ben, là, tu as des puristes qui disent « Ah, ben là, on n'aura plus de Coupe Grey dans les tempêtes de neige comme dans les belles années. » Mais en même temps, écoutez, si ESPN est prête à mettre allongé plusieurs millions de dollars sur la table pour convaincre la Ligue canadienne de commencer sa saison 3 semaines plus tôt, je pense qu'on va le considérer sérieusement. Puis de toute façon, la réalité, là, c'est qu'au début du mois de juin, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de raison que cette saison-là ne commence pas plus de bonne heure. Parce qu'on est prêt au début du mois de juin pour que le football commence. T'sais, c'est pas comme si on est rendu à la finale de la Coupe Stanley ou à peu près. C'est pas comme s'il y a comme encore 12 séries de hockey qui ont lieu ou quoi que ce soit. Donc, il y a de l'espace médiatiquement parlant pour que la Ligue commence sa saison au début du mois de juin. On verra si ça va fonctionner.
C'est ça. C'est tellement drôle de voir un match de football avec de la neige. On ne voit plus les lignes pantoute.
C'est vrai.
Il manque un élément
les
important.
Les joueurs ont les mains gelées.
Oui.
C'est des conditions difficiles. Le terrain est glissant.
Ils sont en habit de skidoo.
Puis les joueurs de ligne pour montrer qu'ils sont machos, eux autres, ils n'ont pas de manches.
Oui, exactement. Ils jouent pas de manches. Ouais. Mais écoute, c'est toujours le fun, hein? Des matchs dans des tempêtes de neige. On le voit dans la NFL, souvent à Buffalo ou en Nouvelle-Angleterre ou à Denver et tout ça. Mais comme j'ai mentionné, la Ligue canadienne ne peut pas se permettre de tourner le dos à des chaînes de télévision comme ESPN qui désirent leur lancer des millions de dollars. Je pense qu'ils vont le considérer sérieusement. Et puis ça va empiéter encore un peu moins sur la saison de la NFL, parce que c'est ça que ESPN disent. Eux autres, ils se disent, dès le repêchage, le draft de la NFL, on est prêts, nous autres, à vous présenter des matchs à la Ligue canadienne. On n'a pas de contenu football à présenter à la télé. Puis plus que vous finissez votre saison de bonheur, bien, vous allez moins empiéter sur les matchs de la NFL. Donc, il va y avoir moins de conflits. On va pouvoir présenter plus de vos matchs, donc plus d'argent pour vous autres.
Merci beaucoup. Une petite dernière, parlant de football, puis des Alouettes, puis de la Coupe Grey.
Oui.
Ils réduisent encore le nombre de sièges au Stade Molson?
Bien, écoutez, vous vous souvenez de la dernière année de Larry Smith avec les Alouettes? Son gros projet, c'était d'agrandir le Stade Percival Molson, parce que, souvenez-vous, les Alouettes jouaient à guichet fermé, match après match après match. Je pense qu'il y avait plus de 80 matchs consécutifs à guichet fermé. On était passé de 20 000 à 25 000 places. Bien là, on va réduire les places et on va revenir à 20 000. On va fermer les sections les plus éloignées dans les extrémités du stade pour essayer de créer un certain effet de rareté. Mais écoutez, je m'imagine pas ce que Larry Smith doit se dire dans sa tête. Hein. Écoute, il a fait du lobbying, là, ce monsieur-là, pour s'assurer de faire agrandir ce stade-là. Puis là, ben, on n'est pas capable de le remplir. D'ailleurs, le stade n'a jamais, 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 une seule fois été rempli à pleine capacité depuis que les rénovations ont été complétées.
Merci beaucoup.
Salut!
Merci, Jérémy. Bye.
À bientôt. Bye-bye.